Lézard, 1049 3e Avenue, à Limoilou. Lebaldulézard.com.
Bonsoir tout le monde et bienvenue à la marge à CKRL. Simon Savard au micro avec vous pour la prochaine heure et demie. Et ce soir, ben, on continue sur les deux émissions qui ont précédé. On va explorer encore le grunge, mais cette fois-ci, on va attaquer un peu plus les collaborations ainsi que le début du grunge. Faut se rappeler que le grunge, au départ, ça a été vraiment régional là, comme son. Ça se passait à Seattle. Et ben, faut se mettre aussi dans l'époque que c'était début 80, mi-80, jusqu'à 95, mi-90 à peu près. Ce qu'on vient d'entendre, c'était Lifeless Dead de Mad Season. Mad Season qui était un super groupe, un des super groupes incroyables. Ils ont fait un seul album. Ça a cassé un peu, par exemple, avec le style. C'était beaucoup plus mollo. Mais là-dedans, ce qu'il y avait, ce qu'on pouvait entendre, le chanteur d'Alice in Chains, Lane Staley. On pouvait entendre aussi le drummer de Screaming Trees. Ainsi que le guitariste de Pearl Jam, Mike McCready. Alors ceux qui ont, hein, voyons, la guitare, ça sonne un peu Pearl Jam, ben effectivement, c'est Mike McCready. Et le bassiste, ben c'était J.B. Saunders, un copain que Mike McCready avait rencontré quand il était rentré en cure de désintox. Et ben, ce qui devait arriver arriva. Évidemment, J.B. Saunders, ben lui, sa désintox a pas nécessairement marché, fait qu'il est mort d'un overdose. Et ben il l'a installé aussi, il a suivi en 2002 le chanteur d'Alice in Chains, lui aussi est mort d'une overdose d'héroïne. Ce soir, ça va être un peu triste là-dessus, là, sérieusement, il y a beaucoup de gens qui sont décédés du mouvement grunge, ce qui a donné de la merveilleuse musique. Et eux, avant et après leur mort, vous allez voir, on va faire un petit round-up de tout ça. Ça va vraiment être intéressant. Justement, ben un autre super groupe qu'il y a eu, eux autres, ça a été encore plus court comme que Mad Season, comme super groupe, comme longévité, c'est Spice for Darwin. Durant le temps que Lane Staley a pris à part d'Alice in Chains, justement pour préparer Mad Season, puis tout ça, là, un peu avant sa mort, il y avait Jerry Cantrell, lui, le guitariste d'Alice in Chains, il commençait à faire des trucs un peu solo, puis les deux autres, Sean Kinney puis Mike Starr, ont décidé de former un groupe avec le guitariste, un des guitaristes fondateurs de Queensryche, et Vin Dombrowski, qui était le chanteur de Sponge, un groupe, quand même un groupe avec une, qui passe complètement sous le radar, là, Sponge, parce qu'ils viennent pas de la scène de Seattle, ils sont arrivés un peu après, mais sont super bons. Honnêtement, je les trouve même plus pertinents que, ça sonne un peu comme Stone Temple Pilots, sauf que je trouve que, selon moi, c'est beaucoup plus pertinent. Donc, ils ont fait un EP de 6 pièces, quand même assez dur à trouver, Microfish, que ça s'appelle. Je vais vous mettre deux pièces là-dessus. Je vais vous mettre Submission in Love, suivi par Flood. Les pièces ont été enregistrées là en quelque chose comme 2 semaines. Vous allez voir, ça sonne très, très prompt. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Pièce quand même assez courte, par contre, moins de 4 minutes pour du grunge. Mais vous allez voir, c'est à tomber amoureux drôle là, ça c'est ça pogne drette au cœur. Alors on y va avec du Spice for Darwin. Make me no pride to see. ça ressemble à ça, du Spice Murder Wind. Je l'avais dit, ça tombe directement au cœur. C'est incroyable. Je veux juste mentionner que, dans le fond, les membres de Spice Murder Wind sont le bassiste et le drummer d'Alice in Chains, le guitariste Chris DeGarmo, si je me trompe pas, de membre fondateur de Queensryche, et Vin Dombrowski de Sponge. Là, on va, dans le fond, on va reculer de 15 ans. À Seattle, on va reculer de 15 ans, on va regarder un peu les débuts du grunge. Ben, tout d'abord, c'est quoi du grunge? Du grunge, c'est autant de la, des influences musicales qu'autant une attitude. C'est un peu l'allongement du punk, dans le fond, là. C'est un peu les résidus du punk. Rajouter avec ça un peu, étant donné que ça se passait à Seattle, il y avait pas beaucoup d'avenir là-bas, tu sais, c'était une ville seconde, si je peux dire, même tierce probablement aux États-Unis. Il mouille beaucoup là-bas, la température est vraiment mauvaise là-bas. Rajouter donc là-dessus un petit peu de désillusion, de la hargne, un peu de No Future. Des influences autant ABBA, autant CCR, autant Black Sabbath, les Stooges, du Led Zepp, autant du pop que du metal, que du punk, du Black Flag, des affaires de même. Puis sérieusement, ça va ressembler un peu à du grunge. Mais comme je dis, c'est beaucoup plus qu'un simple courant musical. Et la preuve de ça, ça va être deux des membres, des grands-pères du grunge, si on peut dire comme ça. Ça va être Green River. Green River, dans le fond, ça a été un des premiers bands, ben dans le fond, le deuxième connu, de Mark Arm, le chanteur de Modony, et Steve Turner, le guitariste du même groupe. Aussi, dans Green River, on pouvait retrouver Jeff Ament et Stone Gossard, qui plus tard formeront Pearl Jam. Une des choses que je me suis rendu compte, là, aussi, en faisant mes recherches pour l'émission de ce soir, c'est que à l'époque, là, ça arrive souvent que c'est des duos. C'est deux personnes, ça se lâche pas, ça se lâche jamais. Jeff Ament puis Stone Gossard, ils ont fait plusieurs groupes ensemble, ils se sont jamais lâchés. Steve Turner, Mark Arm, même affaire. Après ça, on peut retrouver Chris puis Kurt de Nirvana, ils ont passé combien de drummers, mais ils se sont jamais lâchés. Ensuite de ça, qui qu'on peut retrouver? Ben, du côté de Soundgarden, ça a été Ben Shepherd puis Matt Cameron. Le drummer et le bassiste se sont jamais lâchés. Ils ont fait plein de groupes ensemble, jamais lâchés. Donc, on va écouter une pièce de Green River. Vous allez voir, beaucoup plus juvénile comme son, beaucoup plus... Quasiment, faut se rapporter aussi au métal à l'époque, là, c'est en 85 à peu près, là. Et on va écouter une pièce de Malfunction aussi. Malfunction, c'est considéré aussi comme un des grands-pères du grunge. Des influences un peu plus glam... c'est Andrew Wood qui chantait et qui jouait de la basse pour Malfunction. Ils ont formé Malfunction s'est formé Andrew Wood avait 14 ans, je pense 14 ou 16 ans. Il est mort à 24 ans en 1990 d'un autre overdose d'héroïne, malheureusement. Et son dernier groupe, Mother Love Bone, a été un autre groupe pré-Pearl Jam de Jeff Ament, Stone Gossard. On en reviendra un peu plus tard là-dessus. Pour l'instant, donc, on y va avec Baby Takes. Vous allez voir, la guitare de Steve Turner fait pas mal penser à du métal de l'époque, là, mais l'époque, en 85. Puis Malfunction, avec With Your Heart, Not Your Hands. Vous allez voir, c'est très spécial aussi comme pièce. Ça ressemble pas à grand-chose. Vous allez voir, c'est quand même intéressant. On y va donc, un petit tour historique à la marge, les débuts du grunge.
Cette soirée vous est présentée grâce à la participation du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou. Lebaldulézard.com.
Quoi de mieux que de faire la différence dans la vie de quelqu'un? Le Centre de parrainage civique de Québec est à la recherche de bénévoles désirant développer une relation d'entraide et d'amitié avec une personne vivant certaines incapacités. Pour quelques heures de temps libre par semaine, vous pourrez faire de belles activités en compagnie d'une personne filleule. En devenant parrain ou marraine civique, vous l'aiderez à briser son isolement. Informez-vous au 527 80 97 ou au cpcq.ca.
Nous sommes le lendemain du 11 septembre 2001. La veille, Ben n'est pas entré dans l'une des tours du World Trade Center où il se rendait. Il est plutôt allé chez Abby, sa maîtresse, et puis l'hécatombe s'est produite.
Disappeared.
Ici Hugues Frenette, le metteur en scène de la pièce Tombée du ciel avec Sophie Dion et Christian Michaud, de l'auteur américain Neil Labute. Je vous donne rendez-vous au Théâtre Périscope pour 10 soirs seulement, du 5 au 15 février. Une production du Théâtre Niveau Parking. Réservé au 418-529-2183 ou sur le réseau Billettech.
Quiet. Du 5 février au 2 mars, c'est la 15e édition du Mois Multi. Un électrisant programme vous transportera durant ces 27 journées de festivités. Spectacles multidisciplinaires, performances sonores et lumineuses, danse, art électronique, installations robotiques, sonores et interactives, cabaret multi et bien plus. Plus d'une centaine d'artistes d'ici et de l'étranger vous invitent à cette rencontre multidisciplinaire unique. Le Mois Multi, du 5 février au 2 mars, à la coopérative Méduse et chez plusieurs partenaires. Moimulti.org.
Vous possédez une carte de membre de CKRL?
Économisez 10 % à chaque fois que vous faites un achat chez Sillon le disquaire au 1049 Avenue Cartier.
La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique.
CKRL HD. Une radio haute décibels.
On continue pour la deuxième portion de l'émission. Je ne sais pas comment vous avez aimé Malfunction et Green River. Là, dans le fond, on va y aller vers... Malfunction, dans le fond, ça a été créé par Andrew Wood et son frère Kevin lorsque Andrew avait 16 ans. Ça a duré en 1980. Ça a duré pendant 8 ans, donc jusqu'à l'âge de 22 ans. Andrew Wood a fait partie de Malfunction, qu'on considère comme un des grands-pères du mouvement grunge. La particularité avec Malfunction, c'est que dans le fond, Andrew Wood et les deux autres membres du groupe avaient tous pris une personnalité extérieure, faisaient quasiment du théâtre quand ils faisaient leur spectacle. Ce qui attirait les foules, bon, ça avait un certain succès commercial, mais au point de vue business, ça rentrait pas trop dans le cadre du mouvement musical de l'époque. Faut se rappeler, par contre, que justement, dans 1980, tout ça, il y avait beaucoup de dérivés de musique extrêmement commerciale, beaucoup de dérivés aussi de métal, des trucs comme ça. Ce qui fait que Andrew Wood, en 1988, décide de mettre un terme à l'époque Malfunction et crée, avec Jeff Ament et Stone Gossard, qui feront plus tard Pearl Jam, Mother Love Bone. L'histoire tragique avec Mother Love Bone, c'est que dans le fond, quelques jours avant la sortie de leur seul album, de leur seul vrai album, il y avait deux EP auparavant, qui avaient quand même eu un succès super... ben, un bon succès, local quand même. Et justement, de fait qu'il y avait eu un succès local, Mother Love Bone était probablement le groupe local le plus populaire de l'époque. Ce qui est arrivé, donc, c'est que quelques jours avant la sortie du seul et unique album de Mother Love Bone, ben, Andrew Wood fait une overdose d'héroïne et, malheureusement, meurt, ce qui fait que l'album ne sortira pas. Faudra attendre 2 ans quand Jeff Ament et Stone Gossard, justement, ont comme repris les bandes et ont retravaillé ça un peu, puis ont décidé de faire un album, puis là, ben, avec la popularité que leur avait apporté Pearl Jam, ben, ils ont eu assez d'argent, probablement, oui, effectivement, pour sortir, enfin, l'album de Mother Love Bone, hommage à Andrew Wood. Ça fait un peu penser un peu les débuts de Joy Division aussi, hein, à l'époque, ben, 10 ans auparavant. Si quelqu'un prend l'album de Mother Love Bone présentement, l'album est sorti en 1992, il a été enregistré en 90. Si quelqu'un prend l'album de Mother Love Bone présentement, c'est sûr que ça aura pas l'impact que ça aurait pu avoir musicalement, cet album-là. Andrew Wood avait une genre de petite voix qui pouvait peut-être rappeler Guns dans le temps. Musicalement, pour l'époque, là, c'était des kids ou presque, là, je veux dire, c'est des gens dans les 22-23 ans. Ça sonne d'une maturité incroyable. Faut se rapporter aussi à l'époque. Évidemment, on connaît d'autres choses, là. Ça fait 25 ans que l'album est sorti, là. Mais si quelqu'un se donne la peine, historiquement, d'écouter l'album de Mother Love Bone, c'est un excellent album. Un album qui a passé complètement sous le radar, mais d'une maturité, d'instrumentation, des chorales d'enfants, des trucs comme ça. Et pour l'époque, ça c'est incroyable. Et s'il y avait une seule toune à se rappeler de Mother Love Bone, ça va être la toune Chloe Dancer, Crown of Thorn. Cette pièce-là, on peut l'entendre sur la trame sonore, je reviens souvent là-dessus, mais sur la trame sonore de l'excellent film Single, justement sorti en 92, même année que l'album de Mother Love Bone est sorti. Et vous allez voir, je vais la mettre, elle est quand même longue, je vais la mettre hommage posthume à Andrew Wood, ce grand, qui est très grand, qui est parti beaucoup trop tôt, sérieusement. Et vous allez voir, là, c'est pas des farces, là, ce que je vous dis là. C'est une pièce qui est quand même assez tranquille, mais regardez la progression, regardez un peu le changement d'accord, tout ça, là, c'est du grand, là, c'est du très grand. Là. Donc, regardez ça, Mother Love Bone, Chloe Dancer, Crown of Thorns. Je vous reviens tout de suite après avec le reste de notre exploration du mouvement grunge ce soir.
Does it really matter?
C'est pas mal ça. Chloé Dancer, Crown of Thorns, The Mother Love Bone, là-dedans, sérieusement, on a à peu près tout entendu. On a entendu la guitare de Stonecrosser, de Pearl Jam. Vous savez, des fois, là, surtout sur le premier album de Pearl Jam, les solos de guitare, pas les solos de guitare qui tirent en malade de Mike McCready, mais tu sais, les autres solos plus angoissés un peu de Stone, on a pu les entendre là-dessus. On a pu aussi entendre la bass incroyable. Vous savez, juste vers la fin, il reste à peu près 2 minutes, la bass de Jeff Ament, le bassiste de Pearl Jam. Vous savez, quand on l'entend dans Jeremy, là, avec son solo de basse, là, ou en tout cas les notes qu'il fait, qui tire un peu plus, ben on a pu les entendre nous aussi. La voix d'Andrew Wood, vers la fin surtout, il y avait des tiraillements un peu à la Aerosmith, Steven Tyler. On a pu reconnaître un peu l'influence des grandes stars des années 70, des trucs comme ça, fin 70, là-dessus. Sérieusement, s'il n'y avait qu'une seule pièce à se souvenir de Mother Love Bone, comme je l'ai dit, c'est de très loin ce qu'on vient d'entendre, Chloe Dancer, Crown of Thorns, c'est donc bien bon. Donc, et je vous le dis, l'album au complet, très disparate, autant des fois ça sonne un peu hard rock, autant que ça va sonner ballade, autant que ça va sonner un petit peu plus agressif. Super bon, Mother Love Bone, le seul album. Allez vous le chercher et écoutez-le de manière historique. Pas nécessairement de manière, je vous le dis, si vous l'écoutez juste pour l'écouter, ça va passer dans le beurre. Donc, ce qui est arrivé, donc, en 90, Andrew Wood est mort d'une overdose d'héroïne. Cependant, son colocataire était nul autre que Chris Cornell, chanteur de Soundgarden, qui avait déjà plusieurs galons. Le Soundgarden, ça faisait déjà des années que ça existait. Sauf que quand il a appris la nouvelle, Chris Cornell, il rentrait d'une tournée et ça l'a complètement sacré à terre. Et il a écrit 2 pièces. Commencé par écrire 2 pièces. Là-dessus. Et là, il a fait, ouais, OK, il y a peut-être de quoi d'autre. Fait que là, il est allé recruter, entre autres, justement, des gens de Soundgarden, des gens de Pearl Jam, Jeff Ament, Stonecrosser, Mike McCready. Et, pour la première fois, on a pu entendre Eddie Vedder sur disque. Pearl Jam n'avait pas encore sorti 10 à l'époque de Temple of the Dog. Temple of the Dog, c'est un groupe que Chris Cornell a créé en hommage à Andrew Wood. Ils ont un seul album de sortie, album éponyme, Temple of the Dog. Et là-dessus, je vais vous faire jouer 2 pièces. Là-dessus, on peut entendre probablement un des plus gros succès de Temple of the Dog. S'il y a une seule pièce de Temple of the Dog que vous connaissez, c'est sans aucun doute celle-là. C'est la seule où on entend Eddie Vedder. Je vous garoche Hunger Strike et sérieusement, quand Chris Cornell a entendu Eddie Vedder chanter là-dessus, il a dit, garde, il a pris le micro et il a chanté sans qu'on se dise les parties que lui allait chanter et que moi allais chanter. Tout s'est fait de façon ultra naturelle et ça a donné le chef-d'œuvre que vous allez entendre, le chef-d'œuvre de la musique grunge que vous allez entendre, Hunger Strike de Temple of the Dog, sorti en 1991. Et ensuite de ça, ben, on y va avec une autre pièce de Temple of the Dog, Your Savior. Évidemment, ben, sorti sur le même album, il y en a juste un. Vous allez voir, écoutez le challenge des 2 voix, Chris Cornell et Eddie Vedder, là, c'est tout simplement magique. C'est jamais vu. Et même vers la fin, écoutez comment Cornell tire dans le temps, c'était quelque chose. Cup's already overfilled. Yeah. But it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies with slaves are working. The blood is on the table and the mouths are choking. I'm going hungry, yeah.
Yeah.
Et voilà, c'était donc Your Savior de nul autre que Temple of the Dog. Et comme je disais, dans le fond, l'album complet de Temple of the Dog, sérieusement, il est vraiment bon. Autant qu'il est diversifié, ça annonce un peu ce que Soundgarden allait devenir. Je dirais un petit peu plus tranquille. Mais commercialement, c'est beaucoup plus viable que les albums précédents de Soundgarden. Et c'est un excellent collectif avec, des comme je disais, des membres de Pearl Jam et des membres de Soundgarden. On va y aller avec parlant de collectif, avec une petite pièce, Right Turn, d'Alice in Chains. Ben, d'Alice in Chains. C'est sorti sur l'album, sur le EP SAP. EP qui est sorti tout juste après leur premier album, Facelift. C'est un EP SAP qui est sorti donc en 1992. Qui contenait 4 pièces. 4 pièces plus une pièce cachée. C'était un hippie que le groupe était supposé travailler. Bon, rentrer en studio, travailler sur des démos, des trucs comme ça. Finalement, ben, ça a fait 4 pièces acoustiques. Et dans le fond, ça a sorti la même année. Ça a sorti quasiment en même temps que Nevermind de Nirvana. Ce qui fait que pour un EP de 5 tonnes, ça s'est ramassé, ça a profité dans le fond de l'intérêt hein, envers les groupes de Seattle. Et ça a monté, ça a avancé, ça s'est ramassé double or. À l'époque, double or, ben, c'était pas mal plus qu'à l'époque-là. Hein, les disques s'en vendaient un peu plus, mais pour un EP, c'est quand même assez incroyable. Donc, là-dessus, il y a eu plusieurs collaborations sur ces 4 pièces-là. Et il y en a une en particulier qui s'appelle Right Turn, qui était créditée sous le nom de Alice Mudgarden. Au lieu d'Alice in Chains, c'était Alice Mudgarden. Et Alice Mudgarden, dans le fond, ça voulait dire qu'il y avait des gens d'Alice in Chains. Il y avait aussi Mark Arm, qui va chanter là-dessus, de Mudhoney. Et il y avait aussi Chris Cornell, de Soundgarden. Malheureusement, c'est la seule pièce de Alice Mudgarden qui existe. Vous allez voir, c'est fabuleux là. Sérieusement là, acoustique, tout, c'est fabuleux. Je vous mets ça tout de suite, Right Turn d'Alice Mudgarden.
Can't leave.
Cette soirée vous est présentée grâce à la participation du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou. Lebaldulezard.com.
Chaque mardi et vendredi, CKRL vous propose des émissions variées axées sur le blues, le métal et plusieurs autres styles, tout comme les soirées du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, c'est des spéciaux sur les bières importées et des microbrasseries québécoises, les étonnants 5 à 7 sur les bières canadiennes et le vin, le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou. Lebaldulezard.com.
Une fois, c'est bien.
Deux fois, c'est mieux.
Mais trois fois, c'est...
inespéré.
Le Théâtre des À-Côtés vous revient avec une toute nouvelle expérience théâtrale alliant humour et érotisme. Chut! Conte sexy, troisième édition. Au Studio P, du 12 au 22 février, préliminaire dès 19h. Venez-y seul, à deux ou pourquoi pas en groupe. Informations, réservations, tdac.co.
Vous possédez une carte de membre de CKRL?
Économisez 10% à chaque fois que vous faites un achat à la Fournée Bio et Pure Passion Chocolatée au 1296 3e Avenue.
La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique.
Les mercredis à minuit, CKRL vous propose les mixtapes. Une sélection musicale dont vous êtes le héros. Pour entendre vos choix musicaux sur nos ondes, faites-nous parvenir votre fichier audio et la liste de vos chansons. Rendez-vous sur ckrl.qc.ca dans la section Programmation et cliquez sur la page Mixtape pour plus de détails. C'est maintenant à vous de jouer.
Vous écoutez CKRL HD, une radio haute décibels.
OK, on est maintenant rendu à la dernière portion de l'émission de ce soir. J'espère qu'à date, vous aimez ça. Là, on va entamer une petite... pas mal basée sur Alice in Chains. Alice in Chains, à l'époque, ça a été un des groupes que j'ai le plus aimé. Probablement parce que mes frères, mon frère, à qui j'ai voué une admiration profonde au point de vue musical, lui était plus penché métal. Et Alice in Chains, je trouvais que c'était à peu près le meilleur compromis qu'on pouvait trouver entre les deux. Le métal me... je sais pas, ça ne disait pas grand-chose. Puis Alice in Chains est arrivé, ouais, OK, c'est lourd aussi, mais ils sont capables aussi de faire d'autres choses. Ils sont capables de, je sais pas, d'amener la musique différemment. Donc, dernière portion, on va se concentrer un peu donc plus sur Alice in Chains. Une des dernières choses que Lane Staley a faites en 1995, ben dans le fond, le dernier groupe qu'il a fait, c'est ce qui a ouvert l'émission de ce soir, c'est dans le fond Mad Season. Comme je disais, il y avait Mike McCready de Pearl Jam. Il y avait aussi le drummer d'Alice in Chains, de Screaming Trees, et J.B. Saunders. Ils ont fait un seul album qui a été réédité cette année avec des trucs un peu... avec des tunes supplémentaires. Il y avait deux chanteurs, du moins sur le seul album qu'ils ont fait, en plus de l'installer, il y avait Mark Lanegan qui a chanté « Aider pour une pièce ». Et les pièces supplémentaires qui ont été trouvées, parce que dans le fond, il était supposé avoir un deuxième album de Mad Season sorti, il y avait des pièces qui avaient commencé à être enregistrées, sauf qu'avec le décès de l'installer, ça a comme mis un stop à tout ça, même si c'était pas supposé être lui qui allait chanter le plus sur le deuxième album. Bon, en tout cas, ça a comme mis un stop là-dessus. Et là, dans le fond, ils ont retrouvé bon, des affaires, tout ça, et ils ont repackagé le seul album, Above, sorti en 1995. Ils l'ont repackagé avec des tunes de plus, tout ça. Et ça donne un superbe album. Sérieusement, ça donne de quoi d'assez incroyable, surtout qu'ils mettent aussi en audio et en vidéo un des deux seuls concerts que Mad Season a donné. Je vais mettre deux pièces, donc, de Mad Season. Leur premier single... River of Deceit, et dans le fond, une pièce supplémentaire qui a été retrouvée, chantée par Mark Lanegan. Mark Lanegan, je tiens juste à le préciser, là, c'était le chanteur, entre autres, de Screaming Trees, qui s'appelle Slip Away. Vous allez voir, c'est super bon, et surtout, écoutez bien les dynamiques qu'il y a dans River of Deceit, le jeu de guitare de Mike McCready, avec la voix de Lane Staley, ça donne quelque chose de mémorable. Et je me rappelle, ça a été, dans le fond, quasiment une des dernières fois qu'on a pu voir... Non, c'est... en tout cas, une des dernières fois qu'on a pu voir un vidéoclip avec Lane Staley. Là, il commençait sérieusement à être magané, par exemple. On y va donc avec River of Deceit, suivi de Slip Away.
Down, 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 down. pieces of stone. The proud broken hearted and close to the bone. Once you had a nightmare and then it came to pass. Gray as the sky in the morning, green as the grass, covering a grave.
C'était donc la pièce Slip Away, une nouvelle pièce de Matt Season qui avait été écrite dans le fond dans la même lignée à l'époque. C'est juste qu'elle n'avait pas sorti sur le même disque. Je vais quitter prochainement. Dans le fond, il reste 15 minutes à l'émission de ce soir. Et avant de quitter, par contre, je vais mettre deux autres pièces. En 98, il y a eu un super groupe qui s'est formé tout de suite après, dans le fond, Mad Season, mais à peu près des mêmes idées. C'était Lane Staley d'Alice in Chains, Tom Morello, guitariste de Rage Against the Machine, ainsi que la section rythmique de Jane's Addiction, Stephen Perkins et Martin Lenoble, si je me trompe pas. Ils ont fait une seule pièce pour la trame sonore du film Les Enseignants, The Faculty, de Robert Rodriguez. Et ça a été une reprise de Another Brick in the Wall Part 2. Et le super groupe s'appelait Class of 99. Je vais mettre ça. Et aussi, je vais mettre une pièce solo de Jerry Cantrell. Jerry Cantrell, le guitariste de Pearl Jam, qui a sorti deux albums solo. Et le dernier album qui est sorti en 2002, ça a sorti trois mois avant, après l'annonce de la mort de Lane Staley. Et sur cet album-là, dans le fond, album qu'il avait composé, dans le fond, c'était supposé ressembler à ça un peu, la suite d'Alice in Chains, Jerry Cantrell, qui composait énormément pour Alice in Chains, et étant donné que Lane Staley était pas capable de venir en studio, était plus capable, était pas intéressé, était plus sortable de chez eux, ben Jerry, ce qu'il avait fait, c'est qu'il était rentré en studio, il avait composé, il était allé recruter nul autre que Robert Trujillo, qu'on connaît aujourd'hui pour avoir pris la place de Jason Newsted dans Metallica, mais avant, dans le fond, c'était le bassiste de Suicidal Tendencies, et aussi Mike Bardon au drum, qu'on a pu entendre sur tous les albums de Faith No More, et aussi en tournée, dans le fond, avec Ozzy, Mike Bardon remplaçait là-dessus. L'album de 2002 qui a suivi la mort de Lane s'appelle Degradation Trip, et c'est quasiment des visions un peu apocalyptique, un peu prémonitoire de ce qui allait se passer avec Lane. Et dans le fond, la pièce que je vais mettre là-dessus, ça va être Psychotic Break. Et c'est fou, là, mais cette pièce-là a été composée avant la mort de Lane. Et c'est incroyable comment ça parle. Cette pièce-là, c'est fou raide, là, les paroles. On peut écrire même, tu sais, il dit qu'il entend encore la voix de son meilleur ami qui est mort, puis tout ça. Évidemment, ben, en tout cas, Je sais pas comment il a fait, là, mais c'est clairement, ça parlait à Lane. Donc, je vous laisse là-dessus. La semaine prochaine, je vous propose le volume 2 de l'exploration du grunge. Je vous propose encore plus de trucs obscurs. Les débuts du grunge, des groupes qu'on a rarement entendu parler, des groupes qui sont passés sous le radar, ça va être une autre exploration incroyable. Je vous propose ça. Donc, pour la semaine prochaine, mardi prochain, même heure, même bat-poste, même bat-heure. Et vous allez voir, ça va être donc très intéressant. Donc, on y va avec Another Brick in the Wall de Class of 99 et Psychotic Break de Jerry Cantrell. Merci beaucoup et je laisse la place au Saint-Patron de la Couffaine pour terminer la soirée avec vous sur les ondes de CKRL.
Téléchargez La Marge sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.
CKRL HD. Une radio haute décibels.
Du 18 janvier au 15 mars, le diffuseur d'événements cinéma et vidéo Antitube présente Panorama des cinémas du présent 3. Au menu, une sélection de films contemporains, d'ici et d'ailleurs, réinventant les formes cinématographiques d'avant-garde et souvent inédits à Québec. Les projections auront lieu les samedis à l'auditorium Roland Arpin du Musée de la Civilisation, au Studio P et au Complexe Le Cercle. Pour de plus amples informations et pour découvrir la programmation complète, visitez antitube.ca. Depuis 1995, Antitube présente le meilleur du cinéma à Québec.
Vous possédez une carte de membre de CKRL?
Économisez 15% à chaque fois que vous faites un achat au Poble d'Orsay au 65 rue de Buade.
La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique.
Au début, il y eut le ciel, les étoiles, le soleil, le vent et les arbres. Et dans leurs feuilles vint la musique. Et ce jour, le cœur de l'homme s'apaisa. Il vous est possible d'en retrouver l'écho. Le choix est vaste, certes. Beaucoup sont différents, mais d'autres plus familières. Un peu comme si elles vous ressemblaient. Tendez l'oreille, tous les jeudis soirs, de 20h à 22h, à CKRLMF 89.1 Québec. Denis Barry vous propose l'émission « L'opineur du chef ». Peut-être y trouverez-vous des airs de parenté. Sait-on jamais?
Cette soirée vous est présentée grâce à la participation du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou. Lebaldulezard.com.